Bonjour à tous. Merci pour cette présidence. Moi, j'aime beaucoup ces vieux chants. Quand j'étais jeune convertie, c'est avec ces vieux chants que j'ai construit ma théologie, le salut par la grâce, etc. Alors, j'ai besoin de petits... Alors, ce sont ce qu'on appelle des poupées gigognes ou des poupées russes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps déjà, Olaf nous avait demandé d'apporter des messages sur l'éducation des enfants. Donc j'en avais apporté un il y a déjà quelque temps. On avait abordé d'un côté la discipline et puis comment donner les moyens à nos enfants de nous quitter, comment leur donner les moyens de partir. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre domaine dans l'éducation des enfants, c'est comment leur forger une identité. Une identité qui soit positive, qui soit constructive. Et en fait, moi j'ai vu, je vois quatre niveaux d'identité. Il y a bien sûr l'identité physique, l'identité émotionnelle, l'identité sexuelle, l'identité spirituelle. On va revoir tous ces éléments-là. Sachant que de toute façon, quand on parle d'éducation des enfants, c'est toujours un chantier. C'est jamais terminé, c'est jamais parfait. Il y a des accidents de parcours et c'est normal. Alors, quand on parle d'identité physique, hein, identité corporelle, c'est important pour notre enfant qu'il comprenne qu'il n'est pas un accident, une personne parmi d'autres milliards sur la Terre, mais qu'il est une créature merveilleuse, qu'il est une créature qui a été choisie par Dieu, qui a été créée par Dieu. Et c'est important de lui rappeler à certaines étapes de sa vie, notamment l'école primaire, le collège, tout ça, où il y a des problèmes un peu d'identité, de lui rappeler combien il est aimé par Dieu et combien il a de la valeur intrinsèquement, de la valeur en tant que créature. Donc, on peut, avec nos enfants, très tôt, leur lire la Bible, bien sûr, et leur relire ce passage dans le psaume 139. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton livre se trouvait déjà écrit tous les jours que tu m'avais destiné avant qu'aucun d'eux n'existât encore. Nos enfants sont dans les mains de Dieu dès leur naissance. Et c'est important aussi que chaque enfant comprenne que Dieu prend soin de lui. Alors c'est vrai que les enfants aiment bien les histoires et puis on peut leur raconter cette parabole de Jésus-Christ. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? N'amassez pas. Oui, voilà. Et puis ensuite, Jésus leur dit, ça on reviendra dessus. Laissez donc venir à moi ces petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc ça, c'est important, construire pour notre enfant le fait que physiquement, corporellement, il est choisi et il est aimé par Dieu. Ensuite, on va lui bâtir il est important de lui bâtir une identité émotionnelle. Émotionnelle voulant dire tout son ressenti, tout ce qu'il a besoin de ressentir dans son cœur et de créer chez lui des émotions positives. Et chaque enfant a besoin de se sentir aimé et accepté dans son identité unique. Et c'est aux parents, en premier lieu, qu'incombe la responsabilité d'aider leurs enfants en répondant à cette question fondamentale, est-ce que je suis aimé? Est-ce qu'en tant qu'enfant, quels que soient mes résultats scolaires, quelles que soient mes performances, est-ce que je suis aimé? Et en fait, on a déjà plusieurs fois parlé de la relation conjugale, des relations père et mère. On a déjà vu cette importance dans le développement de nos enfants. Et c'est d'abord dans le contexte familial, dans le contexte conjugal, qu'il va apprendre à observer, à recevoir et à exprimer l'affectivité et l'affection. S'il y a une leçon que j'ai retenue toutes ces dernières années, pendant tout le temps où a duré l'éducation de nos enfants à la maison, et s'il y a un message que je voudrais transmettre, si on ne se rappelle que de ça, c'est l'importance de montrer qu'on aime, qu'on les aime à nos enfants, et de leur exprimer notre amour inconditionnel. Si l'enfant se sent aimé, il va développer une certaine confiance en lui, une certaine sens de l'identité, un certain sens de la sécurité. Et on va aussi apprendre à son enfant à connaître et à expérimenter les limites d'une expression émotionnelle saine. C'est-à-dire que laisser s'exprimer son enfant, oui, mais ne pas le laisser s'exprimer n'importe comment. Et montrer très tôt qu'il y a des limites. Il y a un proverbe, proverbe 29, verset 15, qui dit « Mais un enfant livré à lui-même sera la honte de sa mère. » Vous avez tous vécu ça dans les supermarchés. Les enfants qui font tout un coup des caprices, des crises, parce qu'il y a des bonbons installés à la caisse et tout. Et le désarroi des mamans. Comment faire et comment faire? L'enfant livré à lui-même sera la honte de sa mère. Nos petites filles, qui sont très bien éduquées, bien sûr, puisqu'elles sont éduquées par notre fille, quand on les emmène au supermarché, elles demandent quelque chose, on dit non, ben non. Voilà, non. Parce que non, c'est non, oui, c'est oui. Terminé. Et souvent, les parents, par ignorance, par paresse, par tout un tas de manque de temps, ne vont pas éduquer leurs enfants à exprimer leurs émotions. C'est une émotion positive. On voit un bonbon, on a envie d'un bonbon. Normal, nous aussi. Si ça se trouve, on voit une boîte de foie gras, ben on dit, tiens, j'aimerais bien manger un peu de foie gras. Mais nous, on a appris à construire une émotion positive. On ne va pas se rouler par terre devant le rayon pour avoir du foie gras. Nos enfants, pareillement, on doit leur apprendre à construire une expression émotionnelle saine en faisant attention, en se protégeant eux-mêmes et en protégeant les autres. Donc, un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Et après, dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, « N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation qui vient du Seigneur. » Enfin, je dirais, et tout le monde le sait, que le péché altère et dénature l'identité émotionnelle. Nos enfants sont nés pécheurs. Nos petits bébés si mignons, ils sont nés pécheurs. Et tous ont péché, hein, c'est dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. L'enfant n'est pas, comme le pensait Jean-Jacques Rousseau, ce qu'on appelle en latin tabula rasa, c'est-à-dire une table rase sur laquelle on construit les choses. Nos enfants ne sont pas bons naturellement. Hein, ils sont pécheurs naturellement. Ils ne sont pas innocents. Ils font des bêtises, et ils ont besoin d'être corrigés, d'être construits, d'être instruits, d'être disciplinés. On en a déjà parlé de ça, la discipline. Et puis, il y a autre chose aussi qui va dénaturer et aller contre la construction qu'on veut faire, c'est la culture actuelle qui nous entoure et les médias qui envoient souvent des idées erronées à nos enfants. Des exemples d'idées fausses qui sont véhiculées par les médias ou la société. Par exemple, les garçons doivent être forts et qu'après tout, s'ils sont un peu violents, c'est pas grave. Que les filles doivent être douces et gentilles. Hein, autre exemple, moi je me rappelle quand nos filles étaient adolescentes, elles ont compris à travers les publicités, les gravures de mode et tout ça, qu'une jeune fille doit être hyper mince pour être belle. D'où cela peut donner des complexes à nos filles et les amener à des comportements alimentaires aberrants. Nous sommes là, nous, pour leur dire « Tu es une créature merveilleuse, tu es aimée en tant que personne, en tant que telle. » Toute jeune fille s'habille d'une manière qu'on pourrait dire séductrice, mais je n'aime pas ce mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Et elles envoient des signaux faux à des garçons qui sont élevés dans une société hyper sexualisée, où on ne s'en rend peut-être pas compte, nous qui avons élevé nos enfants à une époque où il n'y avait pas Internet. Il faut se rappeler de ça, à une époque, il n'y avait pas Internet. Donc le porno accessible à tous, ça n'existait pas. Les clips de rap où les filles sont traitées comme des prostituées, ça n'existait pas. Nous élevons nos enfants dans une société hyper sexualisée, où nous devons, sans les brimer, leur expliquer que leur comportement envoie des signaux négatifs ou peuvent envoyer des signaux négatifs à d'autres personnes. Essayons de voir quels sont les héros, les modèles ou les héroïnes de nos enfants. C'est toujours hyper intéressant. Est-ce qu'ils sont plutôt comme notre petite fille, Spider-Man et tout ça? Ou est-ce qu'ils sont plutôt poupée Barbie, Reine des Neiges? Voilà, ça peut expliquer aussi après leur comportement. Un domaine qui va altérer la construction émotionnelle de nos enfants, c'est des attentes irréalistes et un amour conditionnel. Ça peut être, il y a des enfants qui grandissent dans un amour qui est basé sur les performances. Tu dois être le premier de ta classe, tu dois être le premier en foot, tu dois être le meilleur. Et en fait, que l'on exprime avec des mots ou pas, on leur dit je t'aimerai ou je t'approuverai ou je te récompenserai si tu es le meilleur, le plus. Voilà. Notre enfant, bon, j'en ai déjà dit, notre enfant, il doit être aimé d'un amour inconditionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire, bien sûr. Et quand ils font une bêtise, corriger. Mais s'ils travaillent du mieux qu'ils peuvent et qu'ils ne sont pas premiers de leur classe, pas grave. L'important, c'est qu'ils mettent en pratique leurs compétences, leurs capacités, leur savoir-faire. Et quoi qu'il fasse, il doit savoir qu'il est aimé. Rappelons-nous du fils prodigue. Hein, le fils prodigue qui a fait tout un tas de bêtises, ben son père l'attend et son père l'accueille. Ne manquons jamais de dire à nos enfants combien nous l'aimons et combien nous l'aimons de manière inconditionnelle. Un autre écueil, et ça c'est parfois plus insidieux, parce que des fois les parents eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, c'est ce qu'on pourrait appeler le favoritisme. Vous savez, dans une fratrie, des fois, on voit qu'il y en a un qui est préféré. Alors, parfois il est préféré parce qu'il est le plus intelligent, le meilleur au piano, blablabla. Ou parce qu'il démontre des capacités artistiques, intellectuelles, qui ont fait défaut aux parents, et le parent se retransmet dans cet enfant et se veut se réaliser dans cet enfant. Et puis après, aussi insidieusement, dans certaines familles où il y a un enfant qui est handicapé ou un enfant qui souffre d'une maladie grave ou invalidante, les parents risquent de se focaliser sur cet enfant, de s'en occuper beaucoup plus, de l'aimer entre guillemets plus. Et les autres enfants de la fratrie, voulant aussi qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'occupe d'eux autant, vont soit avoir des comportements de rébellion, soit avoir des comportements de réclamer cet amour-là. Et le favoritisme peut faire des ravages. Hein. Je vous raconte juste ce passage dans Genèse 37, versets 3 et 4. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Et on sait ce qu'il a découlé après. Or, au départ, ça peut paraître légitime, ce petit garçon bébé qu'il a eu quand il était vieux, il s'y est peut-être plus attaché que les autres. Au départ, c'est une petite chose, mais ça a des conséquences énormes. La troisième chose dont je voudrais parler, c'est établir notre enfant dans son identité sexuelle. Très tôt, un enfant, en s'observant lui, en observant ses frères et sœurs, son père et sa mère, il découvre qu'il est un garçon ou une fille, et qu'il deviendra un homme ou une femme. Et une appréciation saine de son identité sexuelle, elle commence dans la famille. Et comment, dans la famille, les époux, le père et la mère, se comportent l'un envers l'autre. Ça va inculquer une considération saine pour les enfants à l'égard du sexe opposé. Par exemple, la manière dont les maris traitent leurs femmes va inculquer aux garçons comment traiter les filles. Et si un mari a pour sa femme du respect, de la douceur, de la considération, vous avez toutes les chances pour que ce garçon devenu un homme, un jeune homme, aura ce même comportement envers les autres filles. Une chose, une maman ne devrait jamais exiger le respect de la part de ses enfants. C'est au papa d'apprendre à ses enfants à respecter leur mère. Parce qu'après, devenus grands, ils respecteront les autres femmes. De même, une maman, une femme, qui va traiter son mari avec considération, sans le rabaisser parce qu'il est toujours en retard, parce qu'il ne sait pas bricoler, qu'il ne sait rien faire de ses 10 doigts, si elle le rabaisse comme ça de manière permanente, elle va inculquer à ses filles que les hommes, ça vaut rien, c'est nul, ça sert à rien, etc. Moi, je me rappelle quand nos enfants étaient jeunes, qu'elles étaient au collège, elles étaient prontes à dire « Oh, les garçons, ils sont tous bêtes, ils sont nuls. » Non pas parce que moi, je disais ça, Jean-Paul, bien sûr, mais parce qu'elles avaient autour d'elles, pardon, les enfants de leur classe, les garçons. Un garçon de 11 ans, il n'est pas développé comme une fille de 11 ans. Et plusieurs fois, je leur ai dit « Attention, ils vont se développer plus tard. » Et quand une demi-fille disait à son frère ou à ses copains, oh, t'es trop bête ou quoi, stop. Tu lui fais de la peine, même si c'était vrai, parce que des fois, il y a des garçons à 11-12 ans, ils ont l'air mais tellement empotés, tellement ils comprennent rien, c'est vrai. Mais c'est pas à... Qu'est-ce que tu dis? C'est pas à développer, c'est pas à encourager. Parce que ça, dans la tête des garçons, ça fait des ravages aussi. De plus, nos enfants, ils sont confrontés aujourd'hui à beaucoup de confusion concernant les identités sexuelles. L'identité homme-femme, l'identité unisexe, la bisexualité, l'homosexualité, le fait que... Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié le terme. Les hommes qui se font opérer pour devenir des femmes. Et trans, oui. Voilà, merci. Bon, nous ne sommes pas, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le politiquement correct lorsqu'on rappelle que les hommes sont faits pour devenir des hommes, sont des hommes, et les femmes sont des femmes. Et concernant l'homosexualité, les meilleurs spécialistes considèrent que l'homosexualité n'est pas fondamentalement un problème de sexualité, mais un problème d'identité. Et on a un petit peu de temps, là, je vois. Je vais vous lire. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas écrit par un chrétien, donc il y a des choses à prendre avec des pincettes. Ça s'appelle La sexualité des gens heureux. Et il parle de l'homosexualité. Alors, je vais vous lire quelques passages très rapidement. Alors, selon une enquête qui a été menée en 2004, hein, ça fait 13 ans à peu près, la dépression toucherait 3 fois plus souvent les homosexuels que les hétérosexuels. Le taux de suicide est de 6 à 7 fois plus élevé. Et pratiquement un homosexuel sur deux fera une tentative de suicide dans sa vie. On y trouve des dépressions majeures, des troubles de l'anxiété, des troubles alimentaires, l'alcoolisme, la dépendance à la nicotine ou à d'autres drogues. Et puis, des gens disent, oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont réprouvés dans leur famille, ils n'ont pas de possibilité de s'exprimer et tout ça. Mais si c'était le cas, l'état psychologique des homosexuels devrait être plus équilibré dans les pays où l'homosexualité est juridiquement protégée, et où l'homophobie est condamnée. Vous êtes d'accord avec moi? Or, une étude menée aux Pays-Bas, un pays qui est très en avance sur tout ce qui est, le Pays-Bas, c'est la Hollande, un pays qui est très en avance sur tout ce qui est protection des minorités, etc., montre que le taux de souffrance mentale des homosexuels néerlandais est égal à celui des homosexuels américains. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont protégés juridiquement qu'ils vont se sentir mieux au fond de leur identité. Et expliquer ça à nos enfants, parce qu'on en entend beaucoup parler à la télé, dans les médias et tout ça, expliquons ça à nos enfants. Ils sont nés garçons, ils sont nés filles, ils sont en devenir des hommes et des femmes épanouis. C'est vrai qu'on est à contre-courant de la culture actuelle. Moi, j'ai deux amis qui sont homosexuels dans notre vie professionnelle, dans ma vie professionnelle, avec qui je discute beaucoup. Bon, je les aime, c'est clair, je les aime en tant que personne, ce sont des amis. Mais ce sont des personnes parfois qui peuvent se retrouver dans des situations un peu compliquées. On peut comprendre. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des références par mail. Après, l'enseignement sur le sexe se communique aussi par la manière dont vous traitez le corps de votre enfant. Quand ils sont petits, le contact physique est primordial. Les câlins, les massages sont une manière de leur faire du bien. Mais très tôt, on va apprendre à toucher nos enfants de manière plus appropriée. Certains enfants, très tôt, développent un sentiment de la pudeur. Ils ne veulent plus se doucher devant nous. Ils ne veulent plus s'habiller devant nous. Ils s'enferment dans la salle de bain, dans les essais, etc. Pas de problème, laissons-les faire. Ils ont peut-être envie de... Bon, ben voilà, c'est mon corps, il m'appartient. Je ne vais pas m'habiller devant tout le monde, prendre ma douche devant tout le monde. Et puis, n'hésitons pas, dès le plus jeune âge, à répondre à toutes leurs questions. Bon, avec leur niveau, bien sûr. Du style, pourquoi les filles n'ont pas de pénis? Je suis désolée, mais à 3 ans, petite fille, elle peut dire, hein, pourquoi il a un pénis et moi pas? Et ensuite, donner rapidement le vrai nom des organes génitaux, si c'est possible. Bon, je sais que dans certaines familles, on développe des petits noms, des machins, mais essayons d'être précis dans ce domaine-là. Et aussi, pour nos enfants, ne les rabaissons jamais sur le plan physique, du style, tu es maigrichon, tu es grosse. Moi, je l'ai entendu, ça. Tu es grosse, parlant de sa fille ou de sa fille ou de sa nièce. Et puis, l'enseignement sur le sexe, il se fait de manière formelle et de manière informelle. Moi, je reconnais qu'on n'a pas été très bon dans ce domaine. Autant quand ils ont été petits, on a répondu à toutes leurs questions et leur plus jeune âge, autant nous nous sommes rendus compte tout d'un coup, arrivés à la préadolescence, l'adolescence, ils avaient appris plein de choses en dehors de nous, soit par des chrétiens, soit par des non-chrétiens. Et en fait, il y a toute une partie de leur éducation sexuelle qui s'est faite en dehors de nous. Voilà. Cependant, utilisons toutes les occasions que nous avons de dire ce que la Bible nous rappelle, au contraire des médias. Par exemple, des tags sur les murs, utilisons-les pour instruire nos enfants. S'ils voient tout d'un coup la couverture d'un magazine érotique dans la librairie ou quoi, n'hésitons pas à les éduquer, leur disant que ce n'est pas une manière normale de traiter les femmes. Alors pour nous, et là je vais aborder un sujet qui est très vieillot, pour nous, pas de relation sexuelle avant le mariage. Je sais que c'est vieillot, c'est traditionnel, c'est décalé, c'est tout ce qu'on veut, surtout par rapport à la culture ambiante, mais rappelons ce que la Bible dit, rappelons-le pour nos enfants. Cependant, si nos enfants devenus adultes font d'autres choix, écoutons-les et gardons la communication. Disons-leur qu'on n'est pas d'accord, voilà. Mais ne les mettons pas à la porte pour ça. Enfin, c'est ce que je considère juste. Et puis, aidons nos enfants à développer un engagement à la pureté avant le mariage. Décider dès son plus jeune âge, je veux me réserver pour mon époux ou mon épouse. Comprendre, faire comprendre à nos enfants que quand ils commencent à sortir avec un membre du sexe opposé, ben, ils sortent soit avec leur futur conjoint, soit avec le futur conjoint d'une autre fille, ou la future conjointe d'un autre homme. D'où le respect, d'où la nécessité d'apprendre le respect de l'autre. Alors, pour aider nos enfants, on peut s'appuyer sur, pour moi, deux textes qui sont fondateurs. D'abord, celui qui fonde le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Ça arrive en troisième lieu. Beaucoup trop d'adolescents forment d'abord une seule chair. Après, ils réfléchissent, bon, je m'attache à lui ou à elle, oui, non, je ne sais pas. Et puis, enfin, peut-être ou pas, ils quittent leurs parents. Non, c'est le sens inverse que le Seigneur nous apprend. Et puis un autre passage, c'est 1 Corinthiens 6, 18 à 20. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme ou une femme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Et celui qui se livre à la débauche, alors dans le passage de Paul, c'est la débauche, parce que ça peut se traduire par l'immoralité sexuelle, pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez Dieu donc dans votre corps. Par rapport à ça, alors moi j'aime bien les livres, je vais vous en présenter un autre, un petit livre qui s'appelle « Attends-moi ». Si ça vous intéresse, pareil, je vous donnerai les références par mail. Les joies de la pureté dans la relation amoureuse. Ouais, c'est ça, 2002. C'est un livre qui est peut-être... Il aborde tous les domaines, les relations, quand on sort avec quelqu'un, ça peut aller très très loin, quand on sort avec quelqu'un, il aborde tous ces domaines-là, les attouchements, les machins, tout ça. Donc, peut-être pas non plus à mettre entre toutes les mains dès le plus jeune âge, c'est clair. Mais quand vous avez des adolescents qui commencent à se poser des questions, qui commencent à se dire « Ah ouais, mais pourquoi je peux pas coucher avec machin et truc ?» Voilà. Proposez-leur ce livre-là et lisez-le avant. C'est clair. Alors après, je dirais que le dernier développement, c'est notre enfant dans son identité spirituelle. Quelle que soit la situation qu'on vit, on est marié, on est séparé, on est seul, peu importe, aider son enfant à découvrir une relation personnelle avec Dieu est la chose la plus importante qu'un parent puisse faire. Parlons de Dieu à nos enfants aussi naturellement que nous leur parlons de tout ce qui les entoure, et instruisons-les de manière formelle, par des paroles bien sûr, ou de manière informelle, par des attitudes, par des actes. Nos enfants petits, vous avez certainement remarqué si vous avez des enfants, croient naturellement ce que leurs parents leur disent. Donc, ils croient naturellement en Dieu. Marc chapitre 10, verset 13 à 15, des gens amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et puis, un commandement, c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 7, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Apprendre à nos enfants la réalité spirituelle d'une relation personnelle avec Dieu, c'est tout le temps. Quand on marche, quand on se couche, quand on se lève, voilà. C'est notre responsabilité. Ne laissons pas cette responsabilité entre les mains d'école du dimanche ou du pasteur ou peu importe. C'est ce qu'on appelle, quand on parle de la foi du petit enfant, la foi qui naturellement nos enfants croient en Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi miroir ou la foi induite. Il y a beaucoup de psychologues et de pédagogues chrétiens qui parlent de ça. La foi miroir, c'est-à-dire qu'ils voient notre foi, naturellement ils ont la même foi. Ou la foi induite, ça veut dire que ce n'est pas une foi qui est réfléchie, mais c'est une foi qui est induite par ce qu'ils reçoivent comme enseignement. Et les choses du cœur, comme la foi, elles ne sont pas autant enseignées qu'elles sont captées aussi par les antennes de nos petits. Nos petits-enfants, ils ont des antennes, ils captent tout. Donc ils captent aussi quand vous priez, quand ils vous voient lire la Bible, quand ils vous voient témoigner, quand très vite on commence à prier à table, des choses comme ça. Et quand nous nous demandons pardon, par exemple. Et c'est notre exemple et l'authenticité de notre foi qui va pousser notre enfant à choisir la foi pour eux-mêmes par la suite. Nos enfants, ils nous imitent. Donc, de toute façon, donnons-leur de bonnes choses à imiter. Avec la préadolescence et l'adolescence arrive ce qu'on peut appeler la foi grégaire. La foi grégaire, c'est-à-dire la foi d'appartenance à un groupe. Hein, on dit, est-ce que vous êtes habitué à ce mot-là, grégaire? Par exemple, le loup, il vit en meute. On dit que le loup est un animal grégaire, parce qu'il ne peut vivre qu'en meute. Nos adolescents, on le sait tous, nous qui avons eu des adolescents, ils ont une foi grégaire, ils ont une attitude grégaire, ils veulent appartenir à un groupe. Ils vont penser comme le groupe, ils vont s'habiller comme le groupe, alors autant que ce groupe soit chrétien, c'est clair, parce qu'ils vont s'imprégner de cette foi-là. Alors, n'hésitons pas à amener nos enfants au groupe de jeunes, au flambeau, et suscitons, encourageant les amitiés chrétiennes en nous invitant les uns les autres. Je vois que c'est déjà vrai dans notre église, on s'invite les uns les autres, comme ça nos enfants, petits ou ados, développent des amitiés avec d'autres enfants chrétiens. Et puis viendra, très vite, Teen Street, Sport et Foi, les GBU, un groupe biblique universitaire, Agapé Campus, etc. N'hésitons pas, même si ça nous demande de faire de la voiture, de faire le taxi et tout, encourageons nos enfants à rencontrer sous forme de groupe d'autres adolescents chrétiens. Cela va les encourager à développer une identité chrétienne dans un monde, celui de l'école, de la télé, du sport, qui est largement non chrétien. Nous sommes dans une société largement, enfin, très minoritairement chrétienne. Nous, Jean-Paul et moi, je parle de nous, on est tellement habitué à ça qu'on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est la vie normale d'être très minoritaire. Mais quand on a été aux îles Féroé, ou quand moi j'ai été aux États-Unis avec mes filles, où là, la culture chrétienne est majoritaire, on voit bien la différence. Les enfants, les adolescents, ils baignent dans une culture chrétienne. Ce n'est pas le cas de nos enfants. Alors protégeons-les en suscitant vraiment ces amitiés-là. Et c'est la période également où ils vont peut-être remettre en question notre foi. Ils vont venir nous poser des questions. Pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi toi tu crois en Dieu et pas la maman de mes copines et tout ça? Et soyons prêts à témoigner auprès de nos enfants, leur disant, déjà en leur donnant notre témoignage, et puis en leur disant qu'effectivement on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Mais leurs copains, copines, athées, ne peuvent pas prouver sa non-existence, c'est clair. Et puis nous avons la conviction intime que Dieu existe parce que nous l'expérimentons dans nos vies, et que l'œuvre du Saint-Esprit a construit quelque chose dans nos vies. Et n'hésitons pas, comme l'explique Blaise Pascal, et je me rappelle quand tu en avais parlé, quand Blaise Pascal construit son pari, le pari de Pascal, même si Dieu n'existe pas, Et si Dieu existe, il n'existe pas. Il vaut mieux croire qu'il existe. Que s'il existe, on est sauvé. S'il n'existe pas, on ne perd rien. Et en plus, moi, je préfère vivre, enfin, même si Dieu n'existe pas, je préférerais vivre ma vie comme je la vis, avec toutes ces considérations, ces valeurs, sans me satisfaire uniquement du matériel. N'hésitons pas à parler à nos enfants, à témoigner à nos enfants, à leur dire pourquoi on croit. Parce que ça, ils vont le répéter. Parce qu'ils sont confrontés, il ne faut pas... À partir, moi je me rappelle, nos enfants, à partir de la cinquième, quatrième, ils étaient vraiment confrontés. Ça commence les discussions un peu plus profondes avec les copains, les copines. Puis après, nos enfants, donc on a parlé de la foi miroir, la foi induite quand ils sont petits, et puis de la foi grégaire quand ils sont adolescents. Et après, ils vont arriver à ce qu'on appelle la foi personnelle ou la foi autonome, où ils vont construire leur propre foi. Ça peut être dès l'adolescence, ça peut être beaucoup plus tard parce qu'ils vont passer un moment dans leur adolescence, ça va être un peu plus tumultueux. Mais là, voilà, ils vont arriver à ce qu'on appelle la foi autonome, qui est basée sur leurs propres convictions. Et ils vont s'approprier ce que nous leur avons appris de manière directe ou indirecte. Et toute cette identité spirituelle, elle va se construire et s'amalgamer de manière différente selon les enfants. C'est pour ça qu'il y a des adultes chrétiens nés dans des familles chrétiennes, qui ne peuvent pas vraiment dire à quel moment ils se sont convertis pour de vrai. Tellement ces différentes étapes, foi induite, foi grégaire, foi personnelle, ont été linéaires. Mais ils peuvent dire oui, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Et puis d'autres, bien que nés dans des familles chrétiennes, ont vécu peut-être des moments de révolte, d'indécision, de questionnement, ils vont pouvoir se dire oui, à ce moment-là, j'avais 18 ans, j'avais 20 ans, à ce moment-là, j'ai vraiment compris et j'ai donné ma vie à Dieu. Et ils ont cessé d'être spectateurs de la foi des autres. Moi, je me rappelle d'un garçon qui a l'âge de nos enfants, donc il est largement adulte maintenant. C'est son père, pardonnez-moi, c'est son père qui est fils de pasteur. Et qui nous racontait qu'il allait dans des groupes de jeunes, il allait dans des camps, il chantait des chants chrétiens, il racontait, il partageait la... Et puis il s'est dit, mais moi, je ne suis pas converti. Il n'avait jamais fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ pour lui. Il répétait ce qu'il avait vu quand il était enfant, et comme son père était pasteur, il l'emmenait partout, et on chantait, etc. Voilà, et pour conclure, donc j'ai mes petites poupées russes, alors vraiment je remercie celles qui les ont apportées. Alors si vous pouvez faire la même chose que moi, j'en ai deux, si vous avez une maman ou un papa, si vous avez des sens. Alors le problème des poupées que je donne, c'est qu'il n'y en a pas toujours autant. Je pense que, alors celle-là j'en ai la 5. Après, je crois que soit dans la 6, soit dans la 4. Ça, voilà, ça c'est notre bébé, en ce qui nous d'accord. Notre bébé, on va l'entourer de soins physiques. Voilà, on va lui donner à manger, on va le laver, on va... Après, il reçoit des soins pour notre corps émotionnel. C'est-à-dire que... On va lui apprendre à gérer ses émotions, également gérer sa sexualité. Je dis sa sexualité parce que j'en ai que 5. Et toi, tu en as 6, tu peux faire un. Voilà, tu peux rajouter. Et puis, après, on va lui donner des soins spirituels. On va faire une couche de protection en plus. Des soins spirituels. Prier pour lui, témoigner avec lui, etc. Mais, et c'est ça qui est le plus important, c'est que malgré tout ce qu'on peut faire pour nos enfants, eh bien Dieu, il est là. Dieu, il a l'enveloppe la plus importante. C'est-à-dire qu'à un moment, malgré tout ce qu'on a fait pour nos enfants, il y a un moment, il part. Il est suffisamment grand pour conduire, faire du scooter, et puis il s'éloigne de lui, il nous échappe. Mais voilà, il y a encore l'enveloppe de Dieu. Il protège notre enfant de devenir grand alors qu'il ne peut plus faire. Bon, si vous n'avez pas retenu beaucoup de choses de mon message, retenez-le pas. Voilà, et je crois que toi, tu en avais que quatre. Hein, donc, mais l'important, c'est ça. Ah, voilà. C'est la protection que Dieu donne à nos enfants. Et en matière de livres, pour ceux que ça intéresse, j'en ai encore un qui s'appelle... Alors, il est plus intellectuel, celui-là, je dirais. Pour que la foi de l'enfant grandisse. C'est un ensemble, alors c'est à destination des pasteurs, des moniteurs d'école du dimanche, etc. Ça explique comment se développe un enfant dans sa foi, dans son état émotionnel et tout, et comment l'accompagner. Donc c'est, moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là, mais c'est vrai que, d'ailleurs il y a plein de pages qui sont cornées, moi quand un livre me plaît, il est très très abîmé. C'est plus ardu de rentrer dans ce livre-là que de rentrer dans ce livre-là, par exemple. Voilà. Si ça vous intéresse, vous me faites signe, je vous donne les coordonnées des livres par internet, par mail. Voilà. Je vous remercie.